Bonjour, bienvenue dans l'émission Livres et Amis. Nous allons vous présenter un livre de Barbara Cassin. C'est l'émission du 27 janvier 2021. Et le sous-titre, c'est Autobiographie philosophique. Et le bonheur, le gros titre, c'est Le bonheur, sa dent douce à la mort. C'est paru aux éditions Antoine Fayard. Et c'est l'auteur insiste beaucoup et elle va lire en exergue, elle rappelle la citation de Rimbaud.
Le bonheur, sa dent douce à la mort, m'avertissait au chant du coq, ad matutinum au Christus venit, dans les plus sombres villes. Arthur Rimbaud.
On se demande ce que cela signifie. Je crois qu'il ne faut pas essayer de comprendre trop vite. En tout cas, le bonheur est présenté comme un antidote à la mort. Et on va voir si ça se vérifie dans le livre. Pendant que je parle d'exergue, je parle aussi de la quatrième de la couverture, de la première, la page même, où on voit un tout petit losange et dedans une tête d'enfant qui a l'air d'une petite poupée. Et elle est dite portrait de Baba, c'est elle, hein, par Hélène Cassi, Carole Cassis.
Caroli Cassin.
Caroli Cassin. Les noms de ses grands-parents et les noms de ses parents. Ouais, oui. Et par conséquent, voyons le bonheur qui est une des façons de répondre à l'angoisse de la mort, et c'est ce qu'elle veut montrer dans le livre. Nous verrons comment elle s'y prend. Et maintenant, présentation de l'idée qu'elle a eue pour écrire son livre.
De l'anecdote à l'idée. Les aléas de l'existence, souvent des choses très banales, un mot d'enfant, une histoire que ma mère m'a racontée pour voir mes yeux quand elle faisait mon portrait, les mots d'accueil d'un homme, une phrase, toujours une phrase. Voilà que cela cristallise et génère un bout de savoir d'un autre ordre, quelque chose comme un concept, une idée philosophique. Comment procède-t-on parfois, certaines fois et non d'autres, de manière imprévue et précise, comme autoritaire, de la vie à la pensée ? Un souvenir m'a suffi pour comprendre ce que je voulais capter. Passant à côté de Samuel, mon fils tout petit, qui s'accrochait au radiateur pour tenir debout devant le mur recouvert de miroirs, je lui dis « Toi, tu pues, tu as fait dans ta culotte. » Il me répond distinctement « Non, maman. » Puis il se tourne face au miroir et dit « Menteur, qu'est-ce qui s'invente là de la vérité ?» qui fait qu'elle ne sera plus unique ni majuscule. La vérité avec un grand V. Très peu pour moi, comment l'exiger ou même la désirer. De l'anecdote à l'idée, voilà ce que j'essaie de cerner dans cette autobiographie philosophique. Elle s'est faite en parlant à mon autre fils, Victor. Je me souviens, je ne me souviens pas. Il y a tant de charme, mais aussi tant de ruse dans ce dont on choisit de se souvenir. Ces phrases sont comme des noms propres. Elles titrent les souvenirs. Quand j'en parle, quand je parle, je comprends pourquoi et comment elles m'ont fait vivre et penser. Si dures soient-elles parfois, elles donnent accès à la tonalité du bonheur.
On voit tout de suite l'une des composantes de ce livre, de cet essai, comment l'appeler, et il est composé de souvenirs d'enfance, d'adolescence, et de sa vie de jeune femme. Elle est maintenant académicienne, donc on voit qu'elle a choisi des souvenirs anciens. Alors ça, c'est le premier matériau de ce livre. Ensuite, on en a vu une petite partie dans cet extrait que vient de vous lire Françoise. Il y a la réflexion philosophique qui s'insère en paragraphe court au début, puis beaucoup plus long à la fin. Il y a certainement une évolution dans le style et dans la composition du roman, et enfin des souvenirs carrément biographiques de choses qu'elle a faites, de rencontres qu'elle a faites et qui ont compté pour elle. Alors, et elle marque bien tout de suite que le souvenir, c'est la mémoire dans les souvenirs fait un tri et elle se demande où est la vérité, et tout de suite elle dit la vérité c'est pas pour moi, il n'y a pas une vérité. Je me souviens qu'une amie philosophe m'avait dit une fois dans une conférence, la philosophie ne cherche pas la vérité, la philosophie cherche le sens. C'est pas beau.
C'est bien, hein, ouais.
Et puisque nous voyons la mère et l'enfant, le premier enfant, Samuel, le second, c'est Victor, eh bien, continuons cette présentation de la famille avec ses parents, si différents l'un de l'autre, et les oncles et tantes, la tribu des oncles et tantes.
Vous avez les plus belles jambes du monde. Vous serez ma femme ou ma maîtresse. Pas ça pour moi. Pas ça, pas moi. De mon enfance, je retiens que tout est possible. C'est à mon avis la meilleure définition de l'amour et de la famille. J'en retiens non moins fermement qu'on y acquiert la certitude de ce qu'on ne veut pas être. Pas ça, pas moi. Il y va pour moi de la tournure qu'a prise la vérité. Un refus de l'un, de l'universel, au profit d'une connivence avec le pseudo, faux mensonge, fiction. Vérité fausse et charmée, dite. Je me suis toujours sentie aimée. J'étais la petite dernière. Ma sœur a 15 ans de plus que moi et mon frère 7. Ils sont nés avant-guerre, moi après. La première composante de mon bonheur, c'est d'avoir su, comment, je ne sais pas, que j'incarnais le bonheur de mes parents à être encore en vie après la guerre. Ma mère m'a eu très tard pour l'époque, un peu avant 40 ans. Elle était en même temps ma mère, ma grand-mère et mon amie. Mon père chérissait ce tardillon, preuve de vie. Ils s'étaient rencontrés à l'atelier de peinture chez Bergès. J'ai retrouvé le nom au réveil ce matin. Elle, une orpheline de province, venue faire les beaux-arts à Paris. Lui, un fils de riche d'à peine 17 ans. Mon père a vu ma mère et lui a dit « Vous avez les plus belles jambes du monde. Vous serez ma femme ou ma maîtresse. » « Votre maîtresse, jamais » a-t-elle répondu.
Voilà, un beau trait de caractère. Et elle va passer au reste de la famille, alors du côté de son père.
Quelle page?
C'est la page 19.
À la mort de son frère, Raphaël avait fait faire son droit à son neveu René, le prix Nobel de la paix. Je n'ai pas vraiment connu René Cassin. J'en parle au plus vite pour qu'il n'en soit plus question. Je lui ai rendu visite une seule fois, juste après mes 68, au moment où je me demandais ce que j'allais faire exactement. Mon père m'a proposé d'aller voir René pour lui demander conseil. René accueille cette petite de 20 ans en disant « Tu es la fille de Pierre ? Pierre, c'est le seul type bien de la famille. Il ne m'a jamais rien demandé. Qu'est-ce que tu veux ?» Je ne voulais plus rien après cet accueil. Il m'a conseillé, puisque je faisais de la philosophie, de m'adresser à son ami Raymond Paulin, professeur en Sorbonne, professeur de philosophie politique, spécialiste des valeurs, ennemi de la liberté éruptive, mandarin patenté. À mes yeux, justes et injustes, de 68 tardes, on pouvait difficilement trouver pire. Comme je faisais l'amour, il s'est repris. Apprends la sténo et je te ferai entrer comme secrétaire chez un de mes confrères. Nos rapports se sont arrêtés là.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à la page 11? Tu m'as dit tout à l'heure que j'avais mal noté.
Mais je trouve non, que c'est le titre.
On arrive à l'oncle.
La page 11, c'est que le titre.
Et après, qu'est-ce
qu'il y a? Après 13, on l'a lu. Pas ça, pas moi.
Ouais, ça va.
Maintenant, on a lu sur René Cassin.
On retient de ce qu'elle a dit, le pas ça, pas moi. Il y a des tas de choses auxquelles elle va savoir dire non. Et maintenant, ce sera l'évocation de son grand-père, Caroli.
Page.
Donc, le père de son père.
Tu peux me donner la page?
Le grand-père Caroli, page 19. Il n'a pas non plus.
On a lu page 19, René Cassin.
Alors, galère, hein, c'est le cas de le dire.
Écoute.
En tout cas, le grand-père était un grand menteur et elle a pris, Elle dit relativiser richesse et pauvreté, parce que dans sa famille, quelquefois on était très riche et quelquefois on était très pauvre. Mais ça ne faisait rien. Et puis, dit-elle, maman mettait toujours de l'argent dans un porte-monnaie, on pouvait se servir comme on voulait. Je me demande comment il faisait, n'ayant pas d'argent pour en avoir quand même. Mais enfin, c'est ce qu'elle dit.
Et alors, là, parlons du grand-père. Je crois que c'est ce que tu souhaitais. Mon grand-père, Raphaël, était spécialiste des brevets. Il n'avait pas toujours du flair puisqu'il avait laissé passer cette invention ridicule de petites cuillères qui s'emboîtent les unes dans les autres. La fermeture est claire. Préférant acheter pour son fils les autocars Paris-Nice juste au moment de la construction du chemin de fer. C'était l'avocat de célébrités comme Michel Morgan, Michel Simon, les Forton, créateurs des pieds nickelés ou de Bibi Fricotin, et mon père avait hérité d'une partie de sa clientèle. Je me souviens d'avoir vu dans notre minuscule vestibule de la rue Pergolèse, qui servait de salle d'attente au cabinet de mon père, Michel Simon, la gueule en biais parce que la teinture de chaussures qu'on lui avait fait porter dans son dernier fil l'avait empoisonné. Le frère de Michel Morgan, qui habitait en face et travaillait en terre à Delhi, et Françoise Hardy, qui venait d'inventer son tube « Tous les garçons et les filles de mon âge ». Raphaël avait divorcé de Judith Lassalle, cantatrice à l'Opéra Comique, une soprano à belle poitrine qui chantait l'air des clochettes de l'Acmé. Mon père, qui avait choisi d'aller vivre avec elle, jugeait avec sévérité toutes les autres voix, trop dans la gorge ou dans le nez. Raphaël est mort de la syphilis. Judith est pour moi celle qui se cachait derrière le rideau cramoisi de son appartement, tout neuf, tandis que je jouais avec les lattes du plancher apposé. Elle est sortie d'un seul coup, drapée de rouge, et poussant un tel contre-hut qu'elle m'a pour toujours interdit de chanter juste, ce qui est pourtant, paraît-il, impossible. Raphaël donnait à son fils un argent de poche genre pognon de dingue, et mon père envoyait repasser ses chemises en Angleterre. Quand il sortait avec Hélène, la jeune fille comme il faut aux plus belles jambes du monde, il l'invitait dans les grands restaurants les trois premiers jours du mois. Ensuite, il se faisait tirer l'oreille pour s'asseoir et prendre un café. Elle ne comprenait pas qu'il n'avait plus un sou. Elle vivait dans une pension d'étudiante boulevard des Batignolles, avec des amis qui sont restés ses amis pour la vie. L'une est devenue la première femme médecin de France, petite bourgeoise si respectable qu'elle n'avait peur de rien. Elle venait d'Angers, où son chat Michou, sogénère Caroli, continuait de l'attendre, disparaissant toute la semaine et faisant éruption dès qu'elle rentrait. Un peu plus tard, quand mon père a fait son service militaire, Hélène volait dans le porte-monnaie de sa mère pour aller le rejoindre à la sortie de la caserne, passer le dimanche avec lui.
Elle dit qu'elle a connu la famille de son père parce que sa mère, qui avait souci des convenances, de temps en temps invitait toute la famille. C'est une famille de juifs hongrois qui avait un destin, comme je l'ai dit, et son père va le retrouver, ce destin, un destin picaresque. Quelquefois ils sont riches et quelquefois ils sont très pauvres. Et au moment où son père est revenu de la guerre, il aurait pu avoir des immeubles à Nice parce qu'il y avait des compensations après la guerre, mais c'était un mauvais avocat et par conséquent il n'a jamais pu obtenir quoi que ce soit. Et il a, pour lui et pour le reste de sa famille.
Ton prochain paragraphe se trouve page 35. Platon chasse Homère de la cité. Mais Aristote explique qu'Homère apprend à mentir comme il faut.
Voilà, parce que son grand-père mentait beaucoup.
Pour moi, tromper, mentir, etc. est intégralement non seulement autorisé, mais requis. Il faut pouvoir le faire. Il faut savoir le faire, pour soi, pour d'autres. S'il y a un impératif catégorique, c'est celui-là, savoir mentir. La morale commence là, et ma mère en était un vivant exemple. Cela ne peut fonctionner qu'à l'instinct, pas à la raison. Dénuder l'autre dans sa subjectivité, entrer dans ses replis, la comprendre, en sortir soi-même plus fort, C'est un mouvement parallèle à celui du pardon. Non pas le pardon latin obliviscor ou
oublier
ou oubli, on met sous le tapis, mais le pardon grec sugignokain où on rentre dans les raisons d'eux. On comprend avec et comme l'autre. Et à partir de là, on peut vraiment rebondir ensemble ou inventer autrement. C'est quelque chose qui tient pour moi au féminin, à la féminité, une manière radicale de tirer parti, d'être le deuxième sexe. Grecia Victa, la Grèce vaincue, qui vint son féroce vainqueur. Je n'ai jamais pensé que je pouvais souffrir d'être une femme parce que précisément c'était ce pouvoir-là que je voulais avoir à ma disposition. Mon père s'est enfui. Ma mère a fait face en disant « Moi, épouser un juif ? Jamais !» C'est plus facile de mentir quand on est une femme qui peut se servir de sa beauté. Cette croyance ne m'a pas quittée. La beauté a sauvé la vie de ma mère comme elle a sauvé la vie de Simone Veil, trop belle pour mourir. Il faut être une femme belle, pas nécessairement d'après les canons de la beauté, mais dans l'ordre de la syntaxe de d'en dehors. La beauté comme signe extérieur de bonté. Kalas kagatos, l'écrase, l'écrasé grec, belle et bon. Le roi des mots valises. Quand on est beau dehors, c'est qu'on est bon dedans, généreux, comme un lion, comme un ange. On vous croit superficiel par profondeur, ce que Nietzsche disait des Grecs.
Voilà bien un exemple de sa philosophie. Elle prend au revers tout ce qui est de la morale conventionnelle. Et comme exemple de mensonge, elle cite le travail qu'ont fait son père et le frère de son père sur leur nom. Parce que il y en avait un qui sur un voisin du premier qui s'appelait Clem Peter et qui l'a changé en Klein Peter. C'est-à-dire qu'un nom juif, il a changé en un nom allemand. Et Cassin, eh bien, c'est devenu Gassino pour se cacher. Ça n'a pas empêché son père d'être dénoncé dans le village où il s'était réfugié. Et sa mère a eu cette superbe réplique quand elle a vu les gendarmes arriver pour l'arrêter. « Madame, votre mari est juif. » Ce sont les voisins qui nous l'ont dit. Alors elle dit « Moi, c'est une splendide femme, juive hongroise, superbe. Moi, épouser un juif, jamais. » Et c'était un des composants de ses souvenirs biographiques que cet antisémitisme à laquelle elle est très sensible. Une remarque aussi sur son féminisme. On voit qu'elle a un féminisme vraiment à l'envers. Elle n'est pas féministe du tout. Elle dit qu'elle ne s'est jamais sentie diminuée par le fait d'être une femme. Et elle a une tête de turc, c'est Kant, et son impératif catégorique, elle n'aime pas du tout. Elle n'aime pas du tout. Kant, c'est celui qui marque bien la différence entre l'univers de la nature, l'univers animal, qui est soumis au déterminisme, et l'univers de l'homme qui est sous le signe de la liberté. Alors elle n'aime pas ça parce qu'elle se veut libre et en union avec avec le monde entier. Et elle est aussi très anticommuniste et on va voir comment elle voit le communisme. Si ce n'est pas touchant, vous allez voir.
Elle parle aussi de la question « baptiser mes enfants », page 43.
Oui. Alors là, son père ne voulait rien entendre, mais sa mère a décidé que pour la petite dernière, elle serait baptisée, mais pas baptisée comme on fait d'habitude. Hein. Il faut que les parents fassent un geste de bonne volonté par rapport à l'Église catholique. Elle, pas du tout. Mais elle dit, je ne veux pas que ce soit un curé qui te donne ces idées-là, mais il faudra que... Et elle a confié avec une amie qui s'appelle Dite. Et pour quelle raison? Parce qu'un jour, devant elle, la fille de Dite qui était montée à un pommier est tombée, s'est cassée la colonne vertébrale et est morte sur le coup. Et Dite s'est mise à prier. Alors elle a dit au moins, ça console, ça permet de supporter les aléas de la vie. C'est ainsi qu'elle a eu une formation catholique, pas bête d'après ce qu'elle dit, et puis l'expérience communiste, puisque c'est son deuxième tête de Turc, elle l'a eu, enfin, 51, une expérience communiste. Une petite fille et les adultes qui font du bruit dans la maison.
Trois fois, c'est l'infini. Du couple qu'il formait, j'ai compris deux choses qui perdurent. Résiliente serait le bon adjectif. D'abord que aimer, c'est ouvrir les possibles. Cela m'est revenu à chaque moment clé de vie et pensée. La grande vérité familiale, c'est qu'on vous aimait. Pas de fond, pas de plafond, murmurait René Char entre chien et loup. Cette vérité faisait famille quoi qu'il arrive. Je me souviens du moment où cela m'est apparu avec certitude. J'étais au lit. L'appartement était tout petit, j'entendais tout. La cuisine était juste à côté de ma chambre. Il y avait du monde qui mangeait, ça faisait du bruit, et je me suis réveillée. Je suis descendue de mon lit, qui était un peu haut. J'avais du mal à descendre toute seule, donc j'étais vraiment petite, 4 ans. Peut-être même 3. Je suis allée jusqu'à la cuisine. Là, quelqu'un m'a prise sur ses genoux, câlinée, puis remise au lit. Je me suis rendormie. Le bruit des voix m'a à nouveau réveillée. Je suis redescendue. Ils m'ont réaccueillie sur leurs genoux, donné quelque chose à manger ou à boire et remise au lit. Je me suis rendormie d'une grande goulée de sommeil. Je me suis réveillée une troisième fois et j'ai su. C'est fini. Je ne veux pas y retourner. Ce n'est pas possible. 3, c'est trop. J'ai quand même glissé en bas du lit. J'y suis allée, coupable jusqu'à la moelle. Ils m'ont prise tendrement dans leurs bras. Tout était normal, doux. Et ils m'ont tranquillement recouchée. Ils n'avaient pas compté. Je n'étais pas coupable. Là, j'ai su ce qu'était l'amour. 3 fois, c'est l'infini. Il n'y aura pas de trop. Ce ne sera jamais trop.
Je trouve qu'elle a un certain culot. Hein, parce qu'elle descend de son lit, elle va embêter les parents qui sont en train de discuter de quoi on ne sait pas. Peut-être de peinture, puisque tous les deux, ils peignent. Sa mère, des peintures très modernes. Son père, beaucoup plus classique. Et son père dit que sa mère peint beaucoup mieux que lui. Elle dit non, non, pas du tout. Et c'est dire l'ambiance de cette famille où cette petite fait à peu près tout ce qu'elle veut. Et je trouve que là, elle est un peu exagérée. Et elle ajoute, après cela, pour finir la présentation de ses parents, que ses parents se disputaient tout le temps et très, très fort. Et sa mère, elle entendait sa mère dire à son père, pas si fort, les voisins vont s'entendre. Et elle trouve que cette ambiance de dispute a été très très vivifiante pour elle. Au passage, je fais un petit commentaire, je trouve que des parents qui se disputent, c'est peut-être pas le mieux pour l'équilibre de l'enfant. Mais en tout cas, elle dit qu'elle se sentait aimée et qu'elle a toujours été très heureuse. En tout cas, ça lui a permis de dire non vigoureusement à la monogamie et à tous ceux qui étaient les partisans de l'un avec un grand U majuscule. Et elle dit qu'elle a été infiniment heureuse quand elle était petite, ma foi, hein. Voilà. Et pas ça.
Nous avons page 59, un paragraphe que tu as marqué, enraciné nulle part.
Oui, on va le prendre.
D'une certaine manière, avec mes parents, tout était ouvert et fermé. Car au fond, ma mère et mon père ne s'autorisaient rien. Ils ouvraient les possibles pour les autres, mais non l'un par rapport à l'autre. Je ne les ai jamais perçus comme libres. Ils étaient liés l'un à l'autre, immobilisés pour toujours, comme si des milliers de liens lilliputiens tressaient un mortel lien conjugal. C'est pourquoi je m'intéresse tant à la scène de la fin de l'Odyssée, où Ulysse est vu, reconnu et se reconnaît avec Pénélope. Ils sont les deux seuls à savoir que leur lit est enraciné, c'est leur secret partagé. Ulysse a fabriqué leur lit dans un tronc d'olivier qui est encore enraciné dans le sol. Il l'a creusé et c'est autour de ce lit qu'il a fait la chambre, autour de la chambre qu'il a fait le palais et autour du palais qu'il a construit sa royauté. C'est cela le couple enraciné. J'ai toujours perçu mes parents comme un couple enraciné et non pas dans une maison, non pas dans un lit, mais comme un couple enraciné l'un à l'autre. Ils ne pouvaient pas s'en sortir l'un de l'autre. Ces racines que, d'une certaine manière, ils m'ont transmises m'ont terrifiée. C'est pourquoi il fallait absolument que tout soit possible à partir d'un autrement. Je ne serai ni médecin comme ma sœur, ni ingénieur comme mon frère, ni, il me suppliait de ne pas, juriste comme mon père, même si chacun de ces métiers, profession libérale, était à portée normale de main. Rien de tout ça ne pouvait convenir, après 68 encore moins. Le tout est possible faisait signe vers ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'on n'avait pas fait dans la famille, ce qui ne veut pas dire que je ne les ai pas imités. J'ai absolument imité mon père, dès les feuilles noircies, par-delà, pas encore écriture, j'ai absolument imité ma mère inarrêtable. J'ai appris immensément d'eux et j'ai été infiniment heureuse d'eux, mais pas ça, pas moi.
Là, là aussi, elle prend le contre-pied de ce qu'on dit généralement en psychanalyse, on dit du mal de ses parents, on a eu des chocs, on a eu des frustrations qui sont assez longtemps. Non, non, elle dit, elle affirme violemment, je suis immensément heureuse. À ce moment, c'est la fin du premier chapitre et c'est la fin de l'évocation de l'enfance heureuse. On va la retrouver et elle appelle ça avec un instinct sûr. Ça commence par un séminaire chez René Char. On va peut-être mettre de la musique pour manifester bien les deux moments de sa vie.
An event, but what a turn of events. I'm confirming the end. I was sleeping in the services then. She's the weakest in the circle of friends. She was flirting with men. I'm learning to mend. There's a lot of hurt to amend, and I wanted to return to the sender, but I never heard of again. So I turned to the next, pressed the burden on them. She's immersed. Usually I'd be the first to defend, but I'm showing no concern. It's a trend. Tables turn, I'm pulling out, we had a date confirmed, but to me that's a mistake I earned, it aches, it burns, got a second degree like I paid to learn, should be letting it be cause it makes me worse, I should be setting her free from the chains and curse, but she's no better than me, what's the safety word, why is it ladies first, why can't people get what they deserve?
But when you don't know it, it's a problem. That's what she's saying. Look, if you want.
Galère, Barbara Cassin, le bonheur, la dent dure à la mort. Décidément, c'est un titre compliqué.
Presque, le bonheur, sa dent douce à la mort. Sorti d'une phrase d'Apollinaire, je ne sais plus. Rimbaud, Arthur Rimbaud.
La deuxième partie évoque longuement un séminaire qu'elle fait avec trois hommes qui sont annoncés dès le début, Heidegger, Charles et Bollack. Mais elle commence par des remarques en tant qu'enseignante. On voit qu'elle est entrée dans l'enseignement, c'est plus la petite fille heureuse et capricieuse, c'est quelqu'un qui a découvert vraiment l'enseignement parce qu'elle fait plusieurs souvenirs, et le premier, c'est celui de Postier qui prépare le nain. elle revient sur ce qu'elle a dit, le kalos kagatos, beau et bon, en disant que la beauté est forcément l'expression de beauté intérieure. Si c'était ça, il y aurait beaucoup de gens beaux.
Tu es optimiste, si beaucoup de gens ont une belle beauté intérieure. Je lis page 85. La gestion redevient de l'invention quand on enseigne, quand on déterritorialise pour de bon. Pour moi, au Brésil, en Ukraine, en Afrique du Sud, en Chine, à Baltimore. Ailleurs, d'une manière ou d'une autre. Sur les terres de la psychanalyse, en maternelle, dans les classes d'accueil, aux énarques. Ainsi, j'ai eu la sensation d'inventer en faisant cours de culture générale, ça s'appelait ainsi, au postier qui préparait l'ENA via le concours interne. On n'allait pas les juger tout à fait de la même manière. Il y avait tant de force et d'espoir. L'un d'eux m'a demandé « Madame, au bout de combien de livres on est cultivé ?» J'ai répondu par une stratégie. « Vous ne pouvez pas ignorer ce que vos examinateurs savent et attendre que vous sachiez. Moi, je l'ignore et je ne peux pas vous l'apprendre. Mais je vais vous enseigner quelque chose que ceux qui vont vous juger ne savent pas. Vous allez le leur faire découvrir. Ce sera votre passeport, votre couteau suisse. » Et j'ai lu avec eux Hannah Arendt, La crise de la culture, que nous venions juste de traduire avec Patrick Lévy pour Gallimard. Pour la crise et la culture, mais aussi pour le travail, l'histoire, la religion, l'art, la diffusion de masse, le politique, la politique, les Grecs, les Romains et nous. Avec en contrepoint, Men in Dark Times, vie politique, pour les paradigmes de vie, hommes et femmes, Carinthe met en récit, de Giuseppe Roncalli, le futur Jean XXIII, à Rosa Luxembourg en passant par Karen Blixen. Hannah Arendt n'appartenait pas encore en France au pot commun des idées et beaucoup ont été reçus.
Voilà, elle n'a pas voulu rentrer dans les normes. Elle leur a expliqué qu'il fallait dire ce qui plaisait au jury, mais qu'elle, elle ne pouvait pas enseigner ça et qu'elle ferait connaître Hannah Arendt. Et elle, avec satisfaction, elle remarque qu'il y en a beaucoup qui ont été élus. Reçu. Et passons à la page 90 où elle évoque l'agrégation.
J'ai boycotté deux fois l'agrégation, comme beaucoup. Crève, salope. Oh, je ne mérite pas ça, répondait en roulant les airs Dina Dreyfus, l'inspectrice générale qui prenait cela pour elle. Puis, je l'ai raté 6, non, 8 fois. J'aimais beaucoup préparer l'agrégation, tout lire d'un auteur, y compris la littérature secondaire, bonne et mauvaise, vite et lentement, à raison de 2 auteurs par an. C'est ainsi que j'ai appris la philosophie. J'ai cessé de la présenter en 1980 à la naissance de Victor. C'est l'inspecteur général qui gardait la salle qui m'a délivrée, comme on réveille une endormie. Il a fallu que j'allaite avec un plaisir sans mélange, que le bébé ne connaisse pas le biberon, que son père me l'amène pour la téter au milieu d'une épreuve qui durait 6 heures. J'ai entendu Victor pleurer dans le couloir, mon lait mis à couler sur la copie. Je suis sortie de la salle et nous nous sommes posés à l'écart dans une classe vide. J'ai commencé à donner la tétée et la porte s'est ouverte. L'inspecteur a eu un instant de recul. Il nous a vus tranquillement assis loin l'un de l'autre, le bébé au sein, nous n'avions pas l'air de tricher. Il s'est excusé devant le sein nu. Quand j'ai réintégré la salle, que j'ai vu ma copie trempée de lait, je n'ai pas eu envie de me rasseoir et je la lui ai rendue pour partir. Il l'a prise très gentiment au bout des doigts en murmurant « Vous devez être très fatiguée, madame. Revenez l'an prochain. » Sa gentillesse m'a délivrée.
Alors, elle va continuer sa carrière et ce qui la met, on peut dire, en selle, c'est la phalène. Qu'est-ce que la phalène? C'est une expérience heureuse, dit-elle, très heureuse. Et c'est ce fameux séminaire qu'on appelle le séminaire de Tours dans sa biographie. Et elle en parle aussi. Elle est toute seule avec un tas de vieux messieurs, qui vont parler du grec parce qu'ils veulent défendre le grec. Elle a sa façon à elle de le défendre. Elle se demande si on peut parler autrement des présocratiques. Alors tout le monde sait, ça fait quand même partie des généralités, que Socrate a fait descendre la philosophie du ciel en terre et qu'il s'est mis à parler des gens de ce qu'ils faisaient de tous les jours. Alors que les premiers philosophes s'occuper d'observer le monde et de dire qu'est-ce qu'il voyait de l'observation du monde. Et elle dit, est-ce qu'on peut parler autrement de des présocratiques? À l'époque, c'était l'après 68, il y avait une grande discussion parmi les philosophes, c'est que ceux qui étaient marxistes, comme Althusser, disaient, hein, il faut que faire de la philosophie, c'est faire de la politique en philosophie, autrement dit, leurs idées influaient fortement sur leur façon d'enseigner. Et d'autres qui disaient, ah non, la philosophie c'est sacré, ça doit être au-dessus de tout. Ah, voilà. Et elle ne prend pas les choses de la même façon. Elle dit, je veux la diversité, je ne veux pas l'un, comme Parménide, hein, une de ses têtes de Turc. Et je veux faire de la philosophie comme on fait de la poésie. Alors cette jeune fille se trouve un jour, Houchard avait invité tout le colloque chez lui, chez une amie, je crois. Elle se trouve là et elle se trouve en retard. Et Charles lui dit, c'est ce qui a donné le titre au chapitre, avec un instinct très sûr, vous aurez trouvé votre place. Et elle va s'asseoir à côté de lui. Le grand Charles, celui qui était résistant, celui qui était poète, celui qui était l'objet de toutes les... de toutes les admirations, mais il a l'air, d'après ce qu'elle dit, de négliger un peu ce colloque de vieux messieurs, hellénistes, et il vient seulement de temps en temps, et c'est Heidegger qui a eu l'idée de faire ce colloque, et là, eh ben non, c'est pas lui qu'elle va préférer, ça va être Char. Et là, la première fois qu'elle s'aperçoit, elle laisse entendre qu'il y a quelque chose entre eux, plus tard elle fera des séjours chez lui, eh bien, c'est qu'à table, elle prend une pile d'assiettes pour les emmener dans l'évier pour les laver, et il y a un étroit couloir qui sépare la cuisine de la zone de l'évier, et elle est avec sa pile d'assiettes qu'elle tient avec les deux mains en bas, avec le menton en haut. Et tout d'un coup, quelqu'un s'interpose dans le couloir, en faisant dans le sens inverse. C'était Char qui l'embrasse sur la bouche. Alors franchement, alors là, J'ai trouvé que c'était quelque chose. Et tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est à l'embrasser sur la bouche au lieu de lui prendre sa petite assiette. Et puis, à remarquer, ils sont tous des messieurs et les seules filles. Et c'est elle qui débarrasse la table. C'est quelque chose quand même. Au passage, je fais ma petite réflexion. Et c'est pas que je trouve la poésie de Charles Manche, mais franchement, encore un qui n'est pas féministe. Hein. Et puis, elle aura une autre fois l'occasion de voir, de se rendre compte qu'elle lui plaît, et d'ailleurs c'est bien réciproque. Ils se promenaient tous l'après-midi, là, et elle s'est arrêtée pour enlever ses sandales, parce qu'elle a l'habitude de marcher pieds nus. Je trouve que dans le Luberon, marcher pieds nus, c'est pas très bon, parce que ça pique, mais enfin, elle, c'est ce qu'elle fait. Ça me fait penser, moi ça m'a fait penser à la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, qui dit que Hélène, qui est surveillée par tous les vieux de Troie, elle s'arrête exprès pour dénouer sa sandale et montrer un peu plus ses fesses et ses jambes. Et tout d'un coup, elle voit arriver Charles qui lui prend ses seins dans la main. Elle ne dit rien du tout. Elle dit d'ailleurs qu'elle est comme pétrifiée et que là, pour le coup, elle n'a pas su dire non parce qu'au fond, elle disait oui en même temps. Hein.
Voilà. Ah, c'est ton. De nos jours, dire un truc comme ça, tu dis qu'elle était pétrifiée. Si elle était pétrifiée, c'était pas pour qu'elle disait oui. On n'en sait rien. Là, ouais. Tu as marqué quelque chose à la page 112. Nous étions logés au Thor.
Oui, c'est toujours l'évocation de ce fameux séminaire.
Alors, lisons-le. Nous étions logés au Thor, à l'hôtel du Chasselas. M'écrivait poste restante un tendre ami que d'autres autour de moi pouvaient connaître. J'allais chercher sa lettre régulièrement. Un jour où je faisais la queue pour avoir mon courrier, il y avait derrière moi un monsieur qui logeait comme nous au Chasselas et qui prenait son petit déjeuner dans la même salle du restaurant. Je dis mon nom au guichetier, Barbara Cassin. Il me donne mon courrier. L'homme derrière moi entend. Quand je me tourne pour partir, il me reconnaît. « Vous vous appelez Cassin ? Et vous prenez votre petit déjeuner à la table de ce nazi ?» Il me crache dessus. J'ai vu qu'il avait un numéro tatoué sur le poignet. Il a fallu qu'on dise à Arendt « sale juive » pour qu'elle prenne conscience qu'elle était juive. À rebours, mais de même, ce crachat m'a fait prendre conscience que j'étais juive. Je l'avais toujours su sans savoir ce que ça voulait dire. Je ne suis toujours pas sûre de le savoir. Ce jour-là, à l'instant et désormais, j'ai compris que ça engageait des choses que je ferais mieux de ne pas ignorer. J'ai compris qu'il n'était pas si simple que je sois là, au Thor, chez Char, ce grand résistant, avec Heidegger, ce grand nazi, dont on ne savait pas s'il était d'abord grand philosophe ou d'abord, et donc seulement, grand nazi.
Voilà comment elle fait une expérience de plus. Hein. On dit que c'était la position de Sartre, qu'on se sentait juif à cause des autres, pas à cause de soi, mais la façon dont elle le présente, là, ça revivifie l'antisémitisme et la façon dont le perçoivent les juifs. Et là, si elle est dans ce séminaire, c'est quand même qu'elle a produit quelque chose en philosophie et elle fait une conférence à Paris, après le séminaire, sur la traduction de Gorgias, c'est un sophiste, et ce qu'elle permet de voir des sophistes. Les sophistes, dans la conscience ordinaire, ce sont des méchants personnages qui peuvent soutenir une thèse ou l'autre à un procès et qui sont moralement pas très sérieux. Et elle trouve que ce Gorgias, ce personnage de Platon, le sophiste, là, eh bien, il est très intéressant. Et elle est invitée à le présenter à Paris. Elle se trouve dans une crypte d'église, je ne sais plus où, et y assiste Wissam, son maître, page 128.
Jean Bollac se plaisait à être le diable et à exaspérer ses collègues pliés aux normes. Entre la discipline littéraire et la discipline philosophique, il occupait toute la place et n'avait donc pas de place. La situation est noire, plus noire que votre chandail, répétait-il dans le train qui nous emmenait à Lille. Et j'ai dû le prier de ne plus écrire de lettres de recommandation pour moi afin d'avoir une chance d'être recruté au CNRS. Il fallait bénéficier de ce savoir et de cette liberté pour avoir les coudées franches en grec et oser éditer le traité du non-être de Gorgias. Quand j'ai soutenu ma thèse de troisième cycle, Jean-Paul Dumont, professeur à l'Université de Lille, il avait publié un très utile petit recueil « Les sophistes » dans la collection « Les grands textes », faisait partie du jury. Il m'a dit « J'ai compris, tout ce qu'il y a en dessous, vous le faites passer au-dessus. » En dessous, quand on édite un texte grec, cela s'appelle l'apparacritique. C'est là que l'on indique les différentes leçons transmises par les manuscrits, avec parfois les corrections qu'on juge les plus intéressantes.
Les leçons, c'est les corrections dans les mots, ils changent les mots. Je me souviens d'avoir vu des leçons et avoir trouvé que c'était bien pénible.
Indispensable pour que le lecteur averti ait les moyens de comprendre quel texte on lui transmet, exactement comme l'étiquette doit indiquer au client qui sait lire ce qu'il y a dans le produit qu'il va manger. Dumont avait donc constaté que le texte que j'éditais et traduisais conservait le plus souvent la leçon des manuscrits. Ce qu'il y avait d'habitude en dessous, dans l'apparat, passait au-dessus, dans le texte. Qu'il s'en étonna, en disait long sur la bonne partie de l'enseignement du grec et de la philosophie grecque en France. Que l'on dût au moins prendre le temps et les moyens d'essayer de comprendre le texte transmis, c'était le combat minimal du philologue bolakien, bolakiste.
Voilà comment se font les oppositions entre ces philologues hellénistes. Il s'agit de savoir se servir des leçons, et elle préfère toujours la leçon du manuscrit. Ce n'est plus la question de la vision du monde, hein. Celui qui est marxiste ou celui qui n'est pas. Ils se battent sur des leçons dans les notes en bas de chaque page. Et ça montre à la fois comment ils peuvent être complètement passionnés par leurs études et comment ça paraît un peu ridicule quand même. Et elle sent le ridicule de la chose, et pourtant vous allez voir, elle s'y est bien accrochée.
Maintenant, nous avons page 145, concierge. En séparant bien la première syllabe con du reste cierge.
Page 145 ?
Oui.
Ah, ça c'est aussi une expérience intéressante de personnage, d'élève, parce qu'elle donne un cours à des gens qui sont psychotiques.
Ah ah. Du temps où je préparais l'agrégation tout en rédigeant Cyparménide, je travaillais à Étienne Marcel, un hôpital de jour pour adolescents psychotiques, avec Françoise Dolto comme divinité tutélaire. Ce fut peut-être le poste le plus passionnant de toute ma vie. Rien ne m'y préparait. Beaucoup de mes amis étaient analystes, d'autres étaient en analyse, pas moi. Je me suis trouvée jetée dans un autre rapport à la langue encore, ni poésie, ni philosophie, la psychose. J'étais censée enseigner le français à ces jeunes qui venaient tous les jours à l'hôpital pour un suivi psychiatrique lourd et pour un peu, le plus possible, de scolarité. Psychose non féminin, maladie mentale ignorée de la personne qui en est atteinte, à la différence des névroses, ce qui provoque des troubles de la personnalité, exemple paranoïa, schizophrénie. Dis Google, ignoré, tu parles. On m'avait d'abord demandé d'aider quelques-uns d'entre eux, puis on m'avait proposé un vrai poste de pédagogue, cadre s'il vous plaît, pour enseigner comme dans une classe le français ou quelque chose qui s'en approcherait. J'avais tout à apprendre, avec réunion de synthèse et de contrôle, grâce aussi aux autres pédagogues, dont celui de logique, d'autant plus remarquable que chéri. Je m'efforçais, pour survivre, de comprendre à la racine ce qui bloquait, en forgeant comme je pouvais mes outils d'attention et d'inattention, aussi importantes l'une que l'autre. Étonnant et bricolé. Chaque adolescent était unique, en capacité et en empêchement. Leur ensemble était à la fois inerte et explosif. Je vieillissais de 2 secondes en 1 seconde. C'était ma seule certitude. J'essayais de tout pour intéresser, ouvrir, défaire les nœuds. Sans doute n'ai-je jamais su ce que je faisais, ni avec Charles, ni avec Heidegger, ni avec ses enfants. La poésie, la philosophie, la folie, la langue, à quoi et comment joue-t-on? Peut-être est-ce un avantage que d'arriver sans armes. En tout cas, je les aimais un par un. J'ai d'ailleurs revu l'un d'eux, il n'y a pas si longtemps, gardien au Luxembourg, qui m'a montré où il cachait ses plants d'herbe dans les serres et les massifs, tandis qu'un autre, devenu vigile au moment des attentats, m'a sauté dans les bras avec son flingue.
Elle donne, elle met au même plan Heidegger et Charles, et puis ces jeunes psychotiques qui lui ont dit-elle beaucoup après. Elle donne un autre exemple, je ne te le fais pas lire parce que le temps presse. Et non, il ne presse pas, alors on va retrouver le baptême.
Le baptême?
On finit. Elle participe à un jury d'assises. Et il s'agit d'un jeune homme qui a commis un viol sur une jeune fille. Et alors, à un moment donné, il dit « je l'ai garrotté ». Alors, elle dit le mot « garrot » est vraiment, c'est avant Franco, avant la mort de Franco, on garrottait les opposants, c'est horrible. Et elle dit « vous l'avez garrotté ?» « Oui, oui ».
« Je suis à la page, vous l'avez garrotté ?»
Oui. Alors, vas-y.
J'ai une fois dans ma vie pratiqué le jugement professionnel. Je ne parle pas du jugement au sein des jurys d'examen ou de concours, ni des redoutables peer reviews qui vous imposent de croire que vous en savez plus que les autres, en particulier dans les domaines que vous ne connaissez pas et où vous ne connaissez personne afin d'éviter ce qu'on appelle les conflits d'intérêts. Non, jugement professionnel au sens de jugement judiciaire. J'ai été juré d'assises, tiré au sort, et j'ai accepté avec enthousiasme, comme une très grande chance, cette occasion de participer de l'intérieur à la machine citoyenne. J'ai commencé à écrire un livre pour témoigner de ce que j'ai vécu. Je me suis arrêtée, faute de pouvoir tout dire, tenue au secret de délibération à mes yeux scandaleusement biaisée par la présidente du tribunal. Je fus d'ailleurs peu après interviewée pour une émission de télévision dans cette même salle de tribunal donnant sur la Sainte-Chapelle, mais je n'en ai plus entendu parler. Voilà. Je laisse de côté ce que je pense de la présidente au rouge à lèvres si bien assorti à la robe, au féminisme de caporal, alors qu'il aurait fallu tenir compte de la structure même du tribunal, composée de 3 femmes, et de celle du jury, presque exclusivement des femmes sans emploi ou retraitées. Il y avait, si je me souviens bien, seulement 2 hommes, dont un curé. Tous les citoyens sont tenus d'accepter en principe, mais sont dispensés ceux dont la présence au travail est irremplaçable. Tous blancs, sans exception, nous jugions à cette séance-là, dont la folie me poursuit, 2 jeunes hommes, un black et un beurre, accusés de viol. Permettez-moi de raconter comme dans une tribune de Libération écrite alors. Les accusés, 3 ans de préventive si je me souviens bien, pointeurs sortant peu de leur cellule, étaient inculpés d'avoir violé 2 Suissesses allemandes venues fêter leurs 18 printemps à Paris avec leurs parents. Elles avaient changé d'hôtel pour être plus libres. Elles se rencontrent à la fontaine de Beaubourg, se voient tous les jours. Le dernier jour, d'un commun accord avec whisky et fumette, ils vont dans un appartement prêté. Viol, donc. C'est écrit sur nos murs aujourd'hui, « Céder n'est pas consentir ». Il les raccompagne en taxi à l'hôtel, échange les adresses, tendresse, don de bagues. Le lendemain, avant de partir pour l'aéroport, l'une des filles consulte un pharmacien qui les envoie à la police, qui les emmène en voiture à la fontaine. « Chérie, tu n'es pas partie ?» Claque, menottes préventive. Elles filent prendre leur avion. Elles n'ont jamais été présentes ni représentées. L'audience a été reportée une première fois. Cette fois, elle doit se tenir. Témoignage à l'audience. 3 années plus tard, du commissaire de police qui leur a fait porter plainte. Il est censé témoigner expressis verbis, avec les mots exacts au mot près, et il le jure. Elle m'a dit, il m'a garrotté. Ce mot rare et connoté m'arrête. Je demande l'autorisation de poser une question. Garrotté ? Elle a vraiment dit le mot ? Oui. Mais en quelle langue vous parlait-elle donc ? C'est vrai, je ne parle pas anglais. Je rigole. C'était donc des Suissesses anglaises. Le commissaire ne parle pas l'allemand et elle ne parle pas vraiment le français. Garrotter, un mot de commissaire de police. Peu de chance que la jeune étrangère l'ait utilisé. Retirez votre question, me dit la présidente, surréaliste. Il faudrait un interprète et nous n'en avons pas. Puis-je vous en poser une autre à l'accusé? Oui. Vous l'avez garrotté, monsieur? Réponse de l'apprenti carreleur. Oui. Et vous avez fait comment? L'accusé esquisse un geste tendre. Je l'ai prise tout doucement par le poignet et je l'ai allongée sur le lit. Une question du juré masculin à l'autre accusé, l'un des plus beaux hommes que j'ai jamais vu. Mais est-ce qu'une femme vous a déjà résisté? Réponse tranquille. Non. Arrive l'expert. Ces jeunes filles sont entièrement friables. On savait à la lecture du dossier que par la présidente que la première, vierge, avait assuré qu'elle ne l'était pas. L'autre, qui n'était plus vierge, avait dit qu'elle l'était. Je demande alors l'autorisation de poser une nouvelle question. Monsieur l'expert, fiable veut dire qu'elle dise la vérité? Oui. Mais alors? Oh, la virginité, c'est quelque chose de tellement subjectif. Parole d'expert. Passages obligés. Les accusés ont un travail qui les attend. L'un a une compagne enceinte et ils n'ont pas compris, regrettent, s'excusent. Les avocats commis d'office font ce qu'ils peuvent. Quand viennent les délibérations, que la loi nous fait garder secrètes, j'ai voulu connaître le plus bas degré de la peine. Question sans réponse. Mais on nous a longuement parlé du viol entre époux et la présidente a suggéré que la compagne, retrouvée lors d'une sortie, n'était pas enceinte. Ils font tous pareil et disent tous la même chose. À la toute fin, la juge d'application des peines a murmuré que les 3 ans de préventive couvraient les 6 ans vers lesquels on nous orientait. J'ai vu les jurés faciles à manipuler et une dynamique redoutable, perméable au pire, racisme, féminisme mal pensé. J'ai vu la peur sous toutes ses formes, mûre pour punir les atteintes à la sécurité et à la tranquillité. C'est de cette peur que j'ai peur, que j'ai eu peur. J'ai compris alors ce que c'est qu'une langue, des niveaux de langue, la différence des langues, le travail que je peux faire aujourd'hui avec les maisons de la sagesse, traduire quand nous confectionnons des glossaires de l'administration française, où l'on voit que les items aussi simples que nom, prénom, date de naissance ne recouvrent pas exactement le même type de sens et de réalité concrète pour ceux qui accueillent et ceux qui sont accueillis, selon leur culture et l'endroit d'où ils viennent. Ou avec les enfants des classes d'accueil à Aubervilliers et à Marseille, dans les expositions et les dispositifs sur la traduction, sur le mot qui leur manque le plus ou le mot qui leur paraît le plus étrange. Toutes ces tentatives, même si elles ouvrent beaucoup plus largement, sont aussi là pour interdire cette pointe du « vous l'avez garrotté » Oui, elles s'inscrivent dans l'inquiétude que suscite la justice punitive. Ricoeur parlait du scandale intellectuel, scandale au sens étymologique de pierre d'achoppement, qui constitue la peine en tant qu'elle ajoute une souffrance à une souffrance, la souffrance de la peine et la souffrance du tort que fait à autrui. Le coupable est puni en tant qu'être rationnel, on ne punit pas un fou, et pourtant on le fait souffrir dans sa chair et non dans sa raison. Cette carence des réponses rationnelles, c'est ni plus ni moins que la violence, la dimension violente de notre justice ordinaire.
Voilà comment.
Bon, on a quasiment fini notre émission. Si tu veux conclure.
Oui. Il y a trois questions se posent. Hein. Qui est-elle? Et puis, on va répondre que c'est d'abord une enfant qui fait partie de la classe qu'on peut appeler bourgeoise. On le voit dans son genre de vie. Ses parents, même s'ils sont pauvres, ils reçoivent du monde, ils connaissent du monde. Il est remarquable que quand elle nous présente quelqu'un, elle présente le fait qu'il est le neveu de tel, ou le petit-fils d'un tel, le petit cousin d'un tel. Et on est quelqu'un que si on est bien, bien, bien entouré. Il y a aussi quelque chose qui, chez elle, montre bien qu'elle est de sa classe. C'est Je ne trouve plus ma note, mais ça ne fait rien.
Page 223, un dernier point. Nous étions incroyablement heureux, si tu veux que je dise ça. Nous étions incroyables. Le titre, c'est « Non ». Nous étions incroyablement heureux alors qu'il était mourant. C'est fou.
Le dernier chapitre est consacré essentiellement à Étienne, son mari.
Mais ce n'est pas fou du tout. Cela tient à la perception du temps et à la perception de ce que c'est un autre. Le temps, non moins que l'autre, sont proches et lointains, à distance élastique. À la fin, pendant toutes ces nuits de printemps, à l'orée du matin, le merle chantait, très tôt, très fort, avec des prouesses quotidiennes de variations, de répétitions et de tempos. Je sais à présent, grâce à Vinciane Després, que le merle chante comme mon chien pisse sur son territoire, aux quatre coins, et qu'il répond, chantant oui ou non, à celui qui, chantant, demande à y pénétrer. Un merle vit encore ce printemps des deux côtés de ma chambre, entre le lierre du jardin pour faire son nid et la cour de l'autre rue, en haut d'un arbre planté deux étages plus bas à cause de la dénivelée de la montagne Sainte-Geneviève. Un merle, à 5h30 du matin, ça s'écoute attentivement. On suit ses dessins du chant et on se rendort parfois avant la fin. C'est net et vibrant, tendre comme la mort elle-même. Chaque chant est à la fois un chant de découverte et un chant d'anniversaire. Car chaque printemps est l'anniversaire de tous les printemps d'éclosion et de hâte, anniversaire aussi du premier printemps que soi-même on ne verra plus. Tous les 31 mai, je suis saisie, tantôt par le souvenir daté de cette mort, tantôt au même creux de l'estomac, comme un coup de poing endogène et inattendu, venu du corps seul, par le souvenir que je n'ai plus, l'oubli du souvenir.
Voilà, bon, elle termine et elle essaye de nous montrer que on peut être heureux. L'autre, il disait qu'on pouvait être heureux en prison grâce à l'imagination. Eh bien, elle est à côté de sa mère qui est en train de mourir et elle dit qu'elle était heureuse. Elle a peur de rien.
À la semaine prochaine.